Le roi Charles VI devient fou. Le front breton se rallume encore. Sur le chemin qui le conduit vers le fief du révolté Jean IV de Montfort, Charles VI ne sait pas que la déraison s'est embusquée et l'attend. En mars 1392, le roi est soudain pris d'un accès de fièvre. Les médecins appelés au chevet du malade s'inquiètent non de l'état physique de leur royal patient, mais de son état mental. En effet, il peine à retrouver sa raison. Il délire encore alors que la fièvre est tombée, et il semble entrer dans un monde où il perd son identité. Ce n'est pas la première fois que Charles VI donne de telles inquiétudes à son entourage. Mais d'ordinaire, tout rentre dans l'ordre et on oublie bien vite ces étranges épisodes où le roi n'est plus le roi. La même année, le 13 juin 1392, un attentat est commis contre le connétable Olivier de Clisson qui, après un bal où il s'est beaucoup amusé avec Charles VI, rentre dans son hôtel du Marais à Paris. Charles VI, arrivé sur les lieux, est très impressionné par la vue du sang. Clisson est encore vivant et va se remettre rapidement. Mais Charles VI est entré dans un état d'agitation tel qu'on lui conseille d'aller en Bretagne, châtier le duc Jean IV. Celui-ci a permis l'évasion vers l'Espagne de Pierre de Craon, auteur de l'attentat contre le connétable. Le 2 août 1392, l'armée se met en route en direction de la Bretagne. Le 5 août, Charles VI et sa troupe traversent la forêt du Mans. Soudain, un vieillard à l'air étrange, en haillon, et qui sort d'une léproserie toute proche, court vers le roi qui est à cheval. Les hommes d'armes veulent l'écarter, mais le lépreux brandit sous le regard du roi ce qui reste de ses poings rongés par la lèpre et lui crie
« Noble roi, ne va pas plus loin! Fais demi-tour, tu es trahi !»
Pendant de longues minutes, l'homme crie cette phrase de plus en plus fort, d'une voix caverneuse, effrayante. Il accompagne le convoi malgré les efforts pour l'en écarter. Alors, tout à coup, le roi fixe ses yeux sur le visage du lépreux. Une sorte de commotion le saisit. Au même instant, un page qui s'est endormi sur son cheval laisse tomber la lance royale. Elle va heurter une armure. Ce bruit provoque un terrible et inexplicable déclic dans la tête affolée du roi dont la raison s'effondre. L'incroyable survient. Le roi tire son épée de son fourreau. Il en transperce son homme d'armes qui meurt sur le coup. Puis il fait reculer son cheval, observe avec un regard fou son escorte terrifiée et la charge au galop.
« Je suis livré à mes ennemis !»
L'escorte se disperse pour éviter les coups meurtriers, mais le roi embroche quand même 4 hommes qui l'a poursuivi. Au bout d'une heure, son cheval est épuisé, son épée s'est brisée contre une armure. Il est descendu de sa monture, solidement attaché sur une civière, et le cortège lugubre et silencieux s'en va vers le Mans. Le roi est devenu fou.
La schizophrénie de Charles VI. Charles VI souffre de ce qu'on appelle aujourd'hui la schizophrénie, de sorte qu'il connaît, entre deux crises, des périodes de rémission où il se comporte tout à fait normalement. Mais lorsque la maladie le saisit, souvent à l'improviste, il ne reconnaît plus sa femme, ses enfants, se met à crier de façon horrible, déchire au couteau les tapisseries et les tentures. Il refuse de se laver, jeûne plusieurs jours, puis se met à manger goulûment, de façon grotesque, animale. Il danse de façon obscène et affirme s'appeler Georges. Au bout de quelques années, Jean sans peur a l'idée de placer auprès du roi fou une blonde, jeune et fort belle, bourguignonne, Odinette de Champ d'Hiver. Caressante et bonne, elle éprouve une immense tendresse pour son roi folle. Elle lui apprend à jouer aux cartes, elle le soigne avec toutes sortes de doux remèdes. Elle tempère l'ardeur des médecins qui veulent à tout prix, régulièrement, inciser le cuir chevelu du malade afin d'en faire sortir le mal de la folie. Odinette tente aussi de convaincre Charles qu'il n'est pas de verre. C'est en effet une obsession pour lui. Il est persuadé que s'il tombe, il va se briser en 1000 morceaux. Alors, Il se barde d'attelles de fer sur tout le corps afin d'éviter la catastrophe qu'il redoute. Tendre, Odinette donne aussi de l'amour au roi. Un an après leur rencontre, naît leur fille, qu'il prénomme Marguerite. Pendant 30 années, les crises vont se succéder, entrecoupées de longues périodes de rémission. De sorte qu'on peut imaginer qu'Odinette et Charles connurent une forme de bonheur intense et rare, jusqu'en 1422. Cette année-là, le 21 octobre, meurt le roi fou.
Que faire ? Il faut, pour guérir le roi, le distraire encore davantage, donner davantage de fêtes qui dissiperont ses crises. Le 28 janvier 1393, à l'hôtel Saint-Paul, résidence habituelle du roi, un grand bal est donné pour le mariage d'une fille d'honneur de la reine. Le roi et 5 de ses amis ont décidé de se déguiser en homme sauvage. Au moment où ils entrent dans la salle de bal, leurs costumes très inflammables à cause de la poix dont ils sont faits, enduites d'étoupe de lin, se transforment en torches et leurs occupants meurent dans d'atroces souffrances. Sauf le roi, qui a été enveloppé dans un grand manteau, sans qu'on ait deviné qu'il s'agissait de lui. Cet épisode, entré dans l'histoire sous le nom de « Bal des Ardents », est bientôt connu dans le royaume tout entier et le peuple s'irrite de ces fêtes données par les princes. La raison du roi est de plus en plus fragilisée. Son pouvoir aussi, qui reprend une allure féodale avec d'une part la maison d'Orléans, Louis d'Orléans, frère du roi, puis son fils, Charles d'Orléans, et la maison de Bourgogne, Philippe le Hardi, oncle du roi, puis son fils, Jean sans peur.
Pendant ce temps, le grand schisme d'Occident, de 1378 à 1417. Rappelez-vous, 1303, paf, sur le pif du pape. En 1305, la ville de Rome étant déchirée par des factions rivales, le nouveau pape Clément V s'installe à Avignon, à la grande satisfaction de Philippe le Bel. S'y succèdent les papes Jean XXII, Benoît XII, Clément VI, Innocent VI, Urbain V, Grégoire XI. Celui-ci, avant de mourir en 1378, émet le désir que le siège de la papauté redevienne Rome. Les cardinaux s'y réunissent et élisent un nouveau pape, Urbain VI, qui refuse de s'installer à Avignon. Le 20 septembre, les cardinaux élisent un autre pape, le français Robert de Genève. Il prend le nom de Clément VII. L'Église se trouve donc gouvernée par deux papes, celui de Rome et celui d'Avignon. Cette situation va avoir des répercussions considérables dans une Europe qui se divise en deux. L'Empire germanique et l'Angleterre demeurent fidèles à Rome. La France et l'Espagne soutiennent les papes d'Avignon. L'enjeu, comme d'habitude, est la perception des bénéfices, des taxes, la possession de toutes sortes de biens, d'État. L'Église de France cherche à s'affranchir de la domination gourmande de Rome. En 1409, le pape avignonnais Benoît XIII et le pape romain Grégoire XII sont déposés par un concile qui en élit un troisième, Alexandre V. Mais les deux autres papes refusent cette élection. Alexandre V meurt en 1410, il est remplacé par Jean XXIII, considéré comme un usurpateur. Finalement, les trois papes sont déposés et remplacés par un seul pape romain, Martin V, élu le 8 novembre 1417. Il ramène l'ordre dans une église ouverte à toutes les dérives. Le grand schisme d'Occident s'achève.